Avant d'écouter les lectures dans la Bible, prions encore. Dieu notre Père, une grande foule de témoins a transmis cette parole qui est maintenant écrite dans la Bible, imprimée dans un livre. D'abord, elle a été portée par des témoins, de nombreux témoins au cours des siècles, depuis Moïse, les prophètes, les sages. À chaque génération, tu as fait lever des nouveaux témoins de ta parole. Par le Saint-Esprit ensuite, les apôtres ont pu se rappeler des paroles que Jésus avait prononcées et nous les ont écrites. Que ce même Saint-Esprit vienne maintenant éclairer les textes au moment où nous les écoutons, pour qu'ils deviennent source de vie, puissance d'action et de changement en nous. Amen. Nous avons deux lectures dans Jérémie, et puis ensuite une lecture dans le livre des Actes au chapitre 16.
Jérémie 20, versets 1 à 3. Pachéour, fils d'Immer, le prêtre, inspecteur chef du temple, entendit Jérémie proclamer ces paroles de la part du Seigneur. Il gifla le prophète et le fit attacher au pilori situé à la porte supérieure de Benjamin, celle qui donne accès au temple. Le lendemain, Pachéour libéra Jérémie du pilori. Celui-ci lui dit « Le Seigneur ne te nommera plus Pachéour, mais terreur de toutes parts. » Nous lisons maintenant Jérémie 37, versets 11 à 16. Pendant que l'armée babylonienne s'était retirée à distance de Jérusalem pour éviter l'armée de Pharaon, Jérémie voulut sortir de la ville pour aller dans le territoire de Benjamin et y prendre part avec les gens de son village à une répartition de terrains communaux. Il passait par la porte de Benjamin quand il tomba sur le chef des gardes nommé Iria, fils de Shelemia et petit-fils de Anania. Iria retint le prophète et lui dit « Tu es en train de passer aux Babyloniens ?» Mais Iria n'admit pas ses explications. Il l'arrêta et le conduisit à ses chefs. Ceux-ci se mirent en colère contre Jérémie et le frappèrent. Puis ils l'enfermèrent dans la maison du secrétaire d'État, Yonatan, dont on avait fait une prison. Jérémie fut mis au cachot, dans un cachot voûté, il y demeura longtemps.
Chapitre 16 des Actes des Apôtres, versets 22 à 31. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et de Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Dans la lecture de Daniel, il était question de pilori, c'est ça, ce sont des pièces de bois avec une charnière et deux trous pour les chevilles. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Et tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer, car il pensait que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces : « Ne te fais pas de mal ! Nous sommes tous encore ici !» Alors le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et, tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda : « Messieurs, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ? » Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille avec toi. »
J'ai choisi ces textes parce que j'étais intrigué par une expression qu'on trouve dans Éphésiens 3, verset 1. Paul dit : « Moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous, les nations. » Cette expression m'a vraiment intrigué. Paul, prisonnier du Christ Jésus. Pour vous, les nations. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui ne choisit plus rien, qui est à la merci du bon vouloir, plutôt du mauvais vouloir de ceux qui le gardent en prison. En plus, dans le texte que Claude vient de nous lire, lorsqu'il était en prison à Philippe, dans la ville de Philippe, ses pieds étaient entravés dans une poutre. Ça s'appelle aussi un pilori. Ça existait en France, ça existait dans beaucoup de pays. Jérémie a subi ce supplice en public. Les pieds attachés dans une poutre, la tête à l'envers aussi. En public, à la porte du temple où tout le monde passait. Pendant 24 heures, il a subi ce supplice. Donc, Paul a vécu, comme Jérémie, le fait d'être une grande partie de sa vie en prison. On pense que la moitié du ministère de Jérémie, sur 40 années de ministère, il y avait 20 ans de prison. Et Paul aussi a été très souvent en prison, à Philippe, et là, quand il écrit aux Éphésiens, il est encore en prison. Et ça ne s'est pas aussi bien terminé qu'à Philippe. Il n'y a pas eu de miracle que le tremblement de terre et que les chaînes sont tombées et que le pilori s'est ouvert et qu'il a pu sortir. Non. Il a certainement ensuite été emmené à Rome où il a été tué. On ne sait pas la fin. La Bible ne dit pas la fin de l'apôtre Paul. C'est des traditions orales sur lesquelles on s'appuie pour penser qu'il est mort à Rome. Alors, ces chrétiens donc, les prophètes, les apôtres, et des chrétiens en grand nombre, encore au XXe siècle, encore de nos jours, ils ont un ministère de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit avec la capacité d'annoncer les paroles de Dieu que des gens reçoivent. La grâce de Dieu, reçoivent l'amour de Jésus et des gens se convertissent, des malades sont guéris, des gens qui sont liés par des esprits impurs sont délivrés, ils trouvent le bonheur, ils trouvent la joie, ils trouvent la paix. Et Dieu permet que ces apôtres-là, ces prophètes, passent une grande partie de leur vie en prison. Cela ne correspond pas à notre logique. C'est pour ça que j'étais vraiment intrigué par cette expression. Moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, les nations. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux que Dieu le laisse en liberté, que Dieu le délivre de la prison et qu'il puisse continuer à annoncer l'évangile, peut-être jusqu'ici en Clermont, parce qu'il y avait aussi des juifs à Clermont à cette époque. C'est de là que vient le christianisme. Et lui, il allait partout où il y avait des juifs parce qu'il pouvait s'appuyer sur une certaine connaissance des prophètes, une certaine connaissance de l'alliance de Dieu avec Israël pour parler du Messie, parler du Sauveur qui, en venant pour Israël, est venu pour les nations aussi. Car ce que Dieu fait pour Israël ne peut qu'être bénéfique pour les nations. Oui, mais Paul a une vocation pour les nations, justement. Peut-être, justement pour cela, est-il en prison. En tout cas, c'est ce qu'il dit, hein. Écoutez encore cette expression, comme il se décrit, « prisonnier du Christ Jésus pour vous, les nations. » Et nous sommes les nations. Pour vous, les Auvergnats, pour vous, les Thiernois, prisonnier du Christ Jésus. Moi, Paul, prisonnier du Christ Jésus pour vous, les nations. Eh bien, Jérémie, dans l'appel qu'il a de Dieu, nous l'avons étudié à la première réunion d'études bibliques, chapitre 1, Dieu lui dit, je t'ai établi, je t'ai placé prophète des nations. Et voilà, lui aussi, prophète des nations, il est la plus grande moitié de sa vie au moins en prison. Et les prophètes des nations. J'ai lu sur la plume des rabbins qu'Israël aujourd'hui encore est en prison. Tant que le Messie n'est pas venu, que la gloire du temple, la présence de la gloire de Dieu dans son temple à Jérusalem n'est pas revenue, Israël est en prison parmi les nations. Les Juifs sont captifs des nations. Et la réapparition d'un État juif, hein, il y a en 1948, donc il y a 70 ans à peu près, n'a pas vraiment supprimé cela. Israël est toujours dépendant des nations. Il est prisonnier. Et Dieu, avec Jérémie, on voit que c'est Dieu lui-même qui permet cela. Il permet cette captivité d'Israël qui est aux mains des nations. Et ce n'est pas son projet, mais il fait lui-même passer par cette étape à travers cette captivité d'Israël. Dieu lui-même est quelque part captif. Dieu lui-même entre dans cette situation pour révéler sa gloire dans les nations. C'est ce que Paul dit ici. Moi, je suis prisonnier du Christ Jésus pour vous, les nations. Et il précise un peu plus loin, au verset 13 du chapitre 3 d'Éphésiens, « Aussi, je vous le demande, ne vous laissez pas abattre par les détresses que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. » Ça défie toute logique, cette affirmation. Comment les détresses de Paul pourraient être, et nous devons, pas pourrait, nous devons considérer les détresses endurées par les apôtres comme notre gloire. Oui, c'est bien ça qui est écrit. Vous ne pouvez pas transformer le texte, même si ça dépasse notre logique, mais ça c'est la parole de Dieu. Cette détresse que vit Paul, elle est pour la gloire des nations, des chrétiens parmi les nations. On a de la peine à le croire, mais il faut s'arrêter quand quelque chose ne correspond pas à notre logique et qui est écrit dans la parole de Dieu. On peut donc aussi penser que les détresses actuelles des chrétiens, et il y en a beaucoup qui sont en prison, il y en a beaucoup qui vivent sans avoir le choix de leur avenir, soumis au bon vouloir, au mauvais vouloir de ceux qui les persécutent. c'est la gloire de l'ensemble du corps du Christ, leur souffrance. Quand Jésus a donné sa propre vie, quand Jésus a transmis sa propre gloire, vous savez qu'il a transmis sa propre gloire, c'est marqué textuellement dans Jean 17, dans sa prière, il dit à son Père, « Je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné à ceux que tu m'as donné, je leur ai donné ma gloire. » Eh bien, lui aussi était prisonnier. Et c'est quand il est lié, attaché, les mains attachées, après avoir été frappé, battu, giflé, humilié, que Pilate le présente à la foule, Pilate le présente par des paroles prophétiques. Il dit à la foule, en leur présentant Jésus, prisonnier, il dit, voici l'homme, voici l'homme, voici Adam, voici l'être humain, c'est en lui que vous pouvez vous reconnaître, vraiment homme comme Dieu le veut. Nous sommes recréés quand Jésus, lui, est prisonnier, recréés en le véritable Adam, le véritable être humain comme Dieu le veut, selon l'image de Dieu. Pilate le présente d'ailleurs aussi comme le roi des Juifs. Il règne dans cette situation où il est prisonnier de Pilate. Je vous ai dit qu'il y a des chrétiens qui ont été longtemps en prison. Il y en a encore actuellement. Pensons à Daniel Laribe, prisonnier en ce moment au Sahel, depuis le 16 septembre 2010, sa femme, Françoise Laribe, fait partie de l'Église réformée de France. Elle nous a demandé de prier pour son mari, Daniel. Elle a été libérée au bout de 3 mois, mais son mari est toujours aux mains des terroristes au Sahel, depuis 3 ans, 2 ans et quelques mois. Il y a dans la littérature chrétienne qu'on peut trouver facilement dans les librairies chrétiennes un livre extraordinaire qui s'appelle « Citoyen du ciel ». C'est un Chinois qui a passé beaucoup de temps en prison. Il a vécu une libération exactement comme l'apôtre Pierre quand il était en prison. Un ange est venu dans sa cellule, l'a fait sortir. Il avait eu les jambes brisées parce qu'il s'était déjà évadé une fois. Alors on lui a brisé les jambes. L'ange lui a guéri les jambes, il s'est levé, il a suivi l'ange, il est sorti à travers toutes les portes fermées. Il est sorti et il était allé retrouver l'église. Cet homme, je l'ai rencontré, il a pu fuir la Chine, il est en ce moment en Allemagne et il a écrit son témoignage, ça s'appelle « Citoyen du ciel ». Plus anciennement, nous avons les témoignages du pasteur Richard von Brand, dans les prisons de la Roumanie communiste. Il était doublement, comment dire, il était fils de Dieu par le fait qu'il croyait en Jésus. Il est aussi juif d'origine. Et les sermons qu'il a écrits en prison sont d'une très grande profondeur. Il a passé beaucoup de temps en prison et c'est Jésus qui est venu le rejoindre en prison. Donc, je déduis de tout cela, Paul subit quelque chose qu'il préférerait ne pas subir. On lui enlève ses moyens d'action, on lui enlève les possibilités de choisir par lui-même, il ne peut plus rien choisir, il est prisonnier. C'est ça la condition d'un détenu, vous ne décidez rien par vous-même, vous êtes à la merci des autres. Eh bien, pour lui, cette situation... Et il la renverse par cette expression prisonnier du Christ Jésus. Il dit pas prisonnier des hommes, il se plaint pas. Il dit même que dans cette situation, Jésus-Christ le fortifie et Jésus lui permet d'être en bénédiction aux nations à travers cette situation qu'il n'a pas choisie. Il n'a pas couru en prison. Il a subi cela par des calomnies, bien sûr, parce qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Il dit, ce que j'endure, c'est une gloire pour vous. Dans le corps du Christ, on est solidaires. Il faut aussi penser à ces chrétiens qui sont en prison. Il ne faut pas juste, ah bon, d'accord, on reçoit la gloire des chrétiens qui souffrent. Oui, mais il faut aussi prier pour eux. Si Paul écrit aux Éphésiens, c'est que les Éphésiens restent en contact avec lui, qu'ils ont, et il va au-devant de du découragement qui pourrait surgir chez les chrétiens, parce que leur apôtre, celui qu'ils aiment, qui leur a annoncé la parole, est en prison, qui ne va pas bien. Il pourrait être découragé. Et Paul dit, non, ne vous découragez pas, c'est votre gloire. Mais au moins, ils sont en lien. Il y a un lien d'amour qui les unit dans le corps du Christ. Nous devons rester unis, au moins nous informer de ce que vivent les chrétiens. Maintenant, en Syrie, en Irak, et tout cela par la faute justement des pays occidentaux qui interviennent de façon inconsidérée dans des pays où ils n'ont rien à faire. Les chrétiens d'Irak sont aussi anciens que les catholiques ou les orthodoxes. C'est l'église chaldéenne, c'est une église fondée par l'apôtre Marc et qui a des traditions très anciennes. Les églises en Syrie qui sont dans la tourmente ou qui sont en pleine guerre, eh bien, ce sont des églises qui parlent la même langue que Jésus dans leur liturgie, l'araméen. Voilà des églises qui sont en pleine tourmente. Nous devons être solidaires, au moins nous informer, prendre connaissance de ce que souffrent nos frères, non pas pour nous venger, pour les venger, mais pour prier les uns pour les autres, recevoir ce que Dieu nous donne à travers leurs souffrances. Vous savez que le réveil, un des réveils les plus connus, une action du Saint-Esprit très forte qui a eu lieu à New York avec le pasteur David Wilkerson. Pour moi, j'ai retenu cette parole du pasteur Wilkerson. Il était très jeune pasteur et il prêchait à des truands, à des gens qui avaient déjà tué d'autres personnes et qui le menaçaient lui-même. Et il a un jour dit à un de ces truands, mais tu peux me découper en morceaux, mais sache que chaque partie de mon corps te criera « Jésus t'aime ». Et je pense que ça a été une parole qui a fait que le royaume de Dieu est venu dans ce royaume de ténèbres où vivaient ces gangs, ces truands. Nous sommes invités par le Seigneur à le laisser venir dans nos situations où nous ne pouvons rien faire. C'est ça la condition d'un prisonnier. On ne peut rien faire, mais le Seigneur peut investir cette situation. Le Seigneur peut nous remplir de sa présence. Et alors, il peut nous faire découvrir la prière aussi. Encore plus, regardez comment Paul prie en prison. Il dit, maintenant je fléchis les genoux devant le Père. Et voilà ce qu'il dit au chapitre 3, verset 20 de Éphésiens. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Vous voyez que ce n'est pas des paroles qui viennent de quelqu'un qui est tranquillement en train de boire son café dans un fauteuil. C'est quelqu'un qui est en prison, mais qui nous garantit qu'il y a cette puissance de Dieu en nous. Elle peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser, ou même demander. Parfois, nous recevons avant même d'avoir demandé. Parce que Dieu dit dans un des prophètes, j'exaucerai avant qu'ils aient fini leur prière. Mais Paul fléchit les genoux pour que nous découvrions cette puissance de Dieu qui est déjà à l'œuvre en nous. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions vivre ce commandement de Jésus. Du même amour dont je vous ai aimé, vous devez vous aussi vous aimer les uns les autres. Amen.